Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor.
Bienvenue à JCC La Belle Église, une belle expérience qui transformera votre vie par la parole de Dieu. Sœur Simone Pierre Ademola, Ghanéenne de nationalité, est un pasteur assaisonné dont le cœur brûle pour voir Christ formé dans les cœurs des francophones. Elle est également le pasteur principal de JCC La Belle Église. Préparez-vous à être enseigné, convaincu, corrigé et instruit à travers ce message qui tombe à pic. Écoutons Sœur Simone Pierre.
Car sa parole, elle s'accomplira.
La sagesse, la principale chose.
Seigneur, merci encore pour ces moments merveilleux que nous avons passés dans ta présence. Père éternel, envoie ta parole nous guérir ce matin. Envoie ta parole nous délivrer. Envoie ta parole nous mettre sur la bonne voie. Père, merci encore pour le privilège que tu m'accordes. Je prie que toute personne ici présente ne se limite pas à ce qu'il pense, mais qu'il dépend totalement sur toi pour la direction, pour l'instruction, Seigneur, pour la vie même. Que ta parole ait l'effet désiré ce matin et que ton peuple soit transformé à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et tout le monde dit Amen. Amen. Prenez place. Asseyez-vous. Merci. Nous sommes dans la joie quand nous sommes dans la maison de l'Éternel. N'est-ce pas? Mais j'aimerais vous demander de faire moins de bruit. Comme ça, tout le monde pourra entendre. OK? Parce que, I think the sound, il y a un petit problème avec le son. Donc, si vous faites du bruit, en plus de ça, on ne va pas entendre le message. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est bon déjà. Amen. Ecclésiaste 9. Partie du verset 14. Nous sommes dans le livre La sagesse est la principale chose. Alléluia. Écrit par Bishop Dag Hayward Mills. Et pour ceux qui ont du mal à accepter qu'on utilise les livres, il y a toujours un verset qui, pour te soulager et pour te consoler. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de versets, donc... It's there, it's in the middle. Don't worry, it's okay. Amen. La sagesse est la chose principale pour votre ministère, pour votre vie. Amen. Si vous voulez une copie électronique gratuite, ainsi que les 99 autres livres, il faut nous voir après le culte. Et on vous offre ça gratuitement, de la part de Bishop Dag. Amen. Beautiful. So, chapter 9, si vous avez votre livre. Ecclésiaste 9, versets 14, 15 et 16. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage. Dis pauvre et sage. C'est pas une bonne combinaison. Qui sauva la ville par sa sagesse et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Alléluia. La sagesse est la principale chose que nous devons désirer, que nous devons chercher. Mais la Bible dit que si tu es sage, mais tu es pauvre, les gens vont mépriser ta sagesse. Amen. Mais cette sagesse est capable de nous délivrer de beaucoup de situations difficiles, voire impossibles. Amen. Nous allons regarder dans l'exemple de la vie de Daniel, un jeune homme que beaucoup d'entre vous connaissent. Bon, de la Bible, bien sûr.
Daniel était un jeune homme qui a été pris en esclavage. Un esclave, normalement un esclave, il est pauvre, il n'a rien. Même s'il était riche avant l'esclavage, étant esclave, il n'a plus rien. Il n'a même pas le contrôle de sa vie. Au point où Daniel et ses camarades, les trois garçons, ont été castrés. Vous connaissez la castration? Ok, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas vous expliquer. Mais ils sont devenus eunuques dans le palais du roi. Et un eunuque est quelqu'un normalement qui est sans puissance. Il est impuissant dans beaucoup de choses. Et le roi avait choisi, la Bible nous dit que le roi avait choisi Daniel et ses camarades parce qu'ils étaient intelligents. Ils étaient beaux de figure et c'était des garçons qui pouvaient demeurer au palais du roi. Donc ils étaient capables d'assimiler, capables de vite apprendre et de s'adapter à leur situation. Mais la vie de Daniel était difficile. Il a vécu des choses que beaucoup d'entre nous n'auraient pas pu nous en sortir. Ok? So, il a vécu des choses. Comment il s'en est sorti? Comment est-ce qu'il a échappé? Presque même la mort, à un moment donné. Comment il s'est échappé? Étant esclave, étant quelqu'un qui n'avait pas de voix, étant quelqu'un qui n'avait pas de mots à dire dans sa situation. Comment est-ce qu'il est sorti de cette situation? Nous allons regarder. La sagesse, le chapitre 9 dit, la sagesse garantit la victoire dans les situations impossibles. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas par quelle difficulté tu passes ou dans quelle situation tu es. Nous pouvons tirer quelques leçons de la vie de Daniel et apprendre aussi comment utiliser la sagesse de Dieu pour sortir de nos situations. Amen. Il y a de nombreuses situations impossibles auxquelles vous ferez face dans votre vie et dans votre ministère. Une situation impossible est une situation dans laquelle vous ne pouvez voir aucune issue. Dans l'histoire que nous venons de lire, nous voyons une ville assiégée par un grand roi. La ville avait en elle quelques hommes et faisait face à une situation impossible. Tout le monde en ville était condamné à mort parce que le roi est venu, il a conquis la ville et il pouvait faire ce qu'il voulait avec. Comment se sortir d'une telle situation? La sagesse est une application ou l'application de la parole de Dieu à des situations impossibles. Bishop Dag a l'habitude de dire que la sagesse est l'application de ton intelligence ou de ta connaissance. Si tu connais beaucoup de choses, tu es très intelligent, tu lis beaucoup, tu as la connaissance des choses, des faits, tu peux discuter sur tout sujet possible. Tu connais tout. Tu connais même la raison pour laquelle Kamala Harris a perdu l'élection. Et tu sais pourquoi Donald Trump a gagné. Tu peux tout savoir. Mais s'il te manque la sagesse, toute ta connaissance ne vaut rien. La Bible dit que la sagesse est la chose principale. Pas l'intelligence, pas la connaissance, mais la sagesse. C'est-à-dire mettre en pratique toute ta connaissance, tout ce que tu peux savoir. Quand tu vas dans les pays de l'Ouest, les pays développés, et tu arrives à l'aéroport, immédiatement tu remarques une différence. Il y a une différente sagesse qui est en marche, en opération. Nous sommes tous des hommes, tous égaux. Dieu nous a créés tous à son image. Un Africain n'est pas moins intelligent qu'un Européen. La preuve, c'est si vous voyez, vous regardez dans ces pays, il y a des noirs partout, dans des positions élevées. Ce n'est pas une question de race. C'est une question de sagesse. C'est une question d'utilisation de la connaissance. Au Ghana, par exemple, nous avons eu des présidents, des grandes personnes qui ont fréquenté à l'étranger. Même notre président actuel, apparemment, il a fait quelques, je ne sais pas si ce sont des stages ou des cours à la Sorbonne, apparemment. Quand il parle anglais, tu vois que la personne là, il n'a pas appris l'anglais à Accra, pas à Lajo, ni à Kwashima, ni à Sels. Mais avec toute la connaissance qu'il peut avoir, je ne dis pas que notre président n'est pas sage, pardon. Mais je dis qu'avec toute la connaissance qu'on peut lui accorder, sachant qu'il a étudié à l'étranger, et tout le temps qu'il a passé à l'étranger, tout ce qu'il a vu là-bas, arriver au Ghana comme président du pays, on ne voit pas l'application de sa connaissance ni de son intelligence dans le pays. Je ne dis pas que le président n'est pas intelligent, il est très intelligent, c'est un avocat. Ok, même les lunettes qu'il porte montrent qu'il est intelligent. Mais je parle de quelque chose de différent. L'application de tout ce que tu sais dans ta situation, c'est ça qui montre si tu as la sagesse ou pas. Amen. Et il y a différents types de sagesse. La manière dont tu gères ta vie, la manière dont tu prends les décisions. Please forgive my French. Mais les décisions que tu prends au quotidien, montrent ta sagesse. Donc, la situation dans laquelle tu es présentement est une réflexion de la sagesse que tu as. Amen. Parce que tu as pris les décisions selon ta sagesse, selon ce que tu as trouvé sage, n'est-ce pas? Donc, nous allons apprendre comment Daniel a utilisé sa connaissance et comment il a mis en pratique la connaissance qu'il avait pour sortir de différentes situations. Certains d'entre nous, notre sagesse nous met dans des problèmes. Notre sagesse creuse des trous et on tombe dedans par notre sagesse, par notre manière de réfléchir. Est-ce que vous voyez? Donc, Daniel, il a eu quelques secrets que je crois qu'il aimerait partager avec nous ce matin. Alléluia! Amen. La sagesse nous confère la grâce de vaincre là où les autres se seraient noyés. Daniel a vécu beaucoup de situations impossibles et s'en est sorti par la sagesse de Dieu. Daniel était un eunuque et un esclave sans avenir, mais à travers la sagesse de Dieu, il surmonta cette situation impossible. Dieu envoya son onction à Daniel et lui conféra sa sagesse. Daniel surmonta le fait qu'il était un eunuque et devint une personnalité exceptionnelle au palais du roi. Alléluia. Donc la première chose que nous allons apprendre se trouve dans Daniel chapitre 1, du verset 9 au verset 20. Les versets sont assez longs. Soyons patients, on peut même lire ensemble. Maybe we should read it together. Ok? Donc nous allons lire ensemble, comme ça vous n'allez pas dormir pendant que je lis. Alléluia. Daniel 1, verset 9. Let's go. Dieu gagna à... Which version is this? It says Bible second. But there's Louis second. All right, we can read it. C'est la Bible, c'est une version. All right, so let's decide. Which one are we reading? Louis II. Okay. Are you ready? Okay. Let's go. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishkaël et d'Azaria. « Éprouvez tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Let's go. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels les rois les interrogeaient, ils les trouvaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Alléluia. Ça, c'est l'histoire de Daniel et ses 3 camarades, des esclaves qui étaient censés être préparés pour habiter le palais du roi. Et pour habiter le palais du roi, tu dois avoir quand même une certaine présence. Donc, l'idée était de nourrir ces jeunes gens qui étaient esclaves, qui n'avaient peut-être jamais vu les mets qu'on mettait sur la table du roi. Imagine un peu le steak, le saumon filet mignon, c'est comme un steak. Oui, saumon fumé, caviar, poisson salé, maybe, I don't know. Mais la table était riche, la table était pleine de choses que les gens riches mangeaient. Daniel et les 3 garçons hébreux avaient l'opportunité de manger ce que le roi mangeait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il refuse. Il dit non, on ne veut pas. Je ne sais pas si les 3 étaient d'accord avec Daniel, mais Daniel avait pris la parole et il a parlé à leur place. Il a dit, on ne veut pas manger ça. S'il vous plaît, donne-nous des légumes et de l'eau. Disons la vérité aujourd'hui. Qui ici allait choisir les légumes et de l'eau au lieu de la nourriture qu'on trouve dans le palais? Il n'est pas venu. Si c'était le quinqué, peut-être. Mais Daniel et ses garçons ont refusé de manger. Et le chef des eunuques, ou la personne qui était en charge, a dit, vous allez me mettre dans des problèmes. Parce que j'ai un objectif, c'est de vous rendre en bon point. C'est de vous donner la nourriture pour que tu puisses avoir, pour que tu, vous puissiez être apoutchou. Do you know apoutchou? Pour que vous puissiez être, sinon, dodu un peu en forme. Not le roi. Oui. Pour que quand on vous voit, on sait que non, ce garçon ou ces garçons viennent du palais du roi. On ne peut pas avoir des skinny, même si c'est à la mode, et dire qu'ils viennent du palais du roi. Les gens vont dire que le roi n'a pas bien traité ces gens. Donc ils ont dit, ok, éprouve-nous pendant 10 jours seulement. On va tester, voir. Je ne sais pas pendant quelle période ils devaient manger et se engraisser. Mais ils ont demandé 10 jours. Et la Bible nous dit quoi? Que après les 10 jours, après avoir mangé les légumes et ils ont bu de l'eau, ils ont refusé le vin que le roi pouvait leur donner. Qualité. Pas le Don Simon que vous achetez en carton. Les fromages, les différentes sortes de viande. Viande d'autruche. Tout ce que vous pouvez imaginer. Ils ont juste mangé les légumes et ils ont bu de l'eau. La Bible dit qu'ils avaient meilleure mine que les autres garçons qui avaient tout bu et tout mangé. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que Daniel a refusé le repas du roi? Quelle est cette sagesse qui a poussé Daniel de refuser ce que beaucoup auraient accepté? Regardons dans Proverbe 23, verset 1 au verset 8. Peut-être il y a une réponse dans ces versets. Proverbe 23, du verset 1. Are you ready? Si tu es à table, let's read, avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gauche si tu as trop d'avidité. Ça veut dire que si tu as tendance à trop manger, go slowly. Ne convoite pas ces friandises. C'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras perdu tes propos agréables. Daniel a eu la sagesse de savoir que ce n'est pas tout qu'on t'offre que tu dois accepter. Ce n'est pas tout ce qu'on te donne que tu dois accepter, même si ça paraît bien. Ce n'est pas toute offre de business que tu dois accepter. Ce n'est pas tout partenaire avec lequel tu dois travailler. Ce n'est pas tout le monde qui te donne l'argent qui est bon. Daniel, dans sa sagesse, il a su que si je fais l'erreur de manger chez le roi, il se peut que quelque chose change. Il se peut que je perds toutes mes valeurs, toutes mes mœurs. Il se peut que je change complètement. Mais je suis différent du roi. Je suis juif. Lui, il n'est pas. Il ne croit même pas en Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on t'offre, frères et sœurs, que tu dois accepter comme étant bon. C'est pas la Bible, mais on dit que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. L'offre peut paraître intéressant. Oh non, c'est un deal. c'est un how do you say, a business deal. Ça, ça va marcher. Ça, c'est une bonne opportunité. Ça, c'est une bonne chose qu'on peut faire. Tout ce qui est trop facile à voir ne peut pas être bon pour toi. Amen. Quelqu'un peut venir avec une idée brillante. Une idée vraiment que tu, toi-même, tu n'as jamais pensé. Et il va te dire, donne seulement, viens seulement, ajoute-toi à moi. Viens, on va faire ça ensemble. Et tu te dis, ça c'est une opportunité. Daniel n'a pas cédé si facilement. Il a pris une décision que je préfère manger ce que je connais que de manger ce que je vois là-bas. Parce que peut-être il a vu du porc, je ne sais pas. Peut-être il a vu des choses bizarres qu'il n'a jamais mangé et il a préféré. You know what? Donne-moi des légumes. Dieu va me garder. Alléluia. En anglais, on dit « cut your coat according soit to your size or to your cloth. » Cut your coat according to your cloth. Il ne faut pas regarder les choses qui ne t'appartiennent pas et le vouloir toujours. C'est bien d'avoir un rêve, d'avoir des aspirations, avoir un projet pour sa vie. Mais la Bible a dit quoi? Il dit « ne regarde pas ses frères, ne regarde pas ce qu'il a sur la table et penser que, ah non, it's nice, it's good. » Ce n'est pas tout ce qu'on met devant toi qui est bon. Et la sagesse de Daniel a fait de sorte qu'il refuse et il rejette les mets qui étaient devant lui sur la table du roi. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est montré fort. Dieu s'est montré capable de tourner le peu que les garçons avaient pour leur bien. Finalement, tout a concouru à leur bien. Ils avaient meilleure mine. Alléluia. Les gens peuvent te regarder et dire que tu es fou. Tu es fou d'avoir rejeté un tel offre. Tu es fou d'avoir rejeté une telle proposition. Mais toi, tu sais que le prix que tu devais payer pour avoir ça était trop élevé. Amen. Tu devais compromettre même tes valeurs. Oui, le vieil homme, il a proposé de payer ta scolarité. Mais il n'y a aucun repas qui est gratuit, ma soeur. Aujourd'hui, il dit non, prends-moi comme ton père, tu es ma fille, je vais payer pour toi. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tout ce qui est facile à avoir que tu dois accepter. Amen. Apprenons de la sagesse de Daniel. Il a refusé carrément. Il a même osé parler. Un esclave, tu fais ce qu'on te demande. Tu te tais quand les gens te parlent. Tu es esclave. Mais il n'a pas voulu se taire. Il n'a pas voulu se rabaisser, si tu veux, et accepter quelque chose qui n'était pas bien pour lui. Beaucoup d'entre nous aussi, nous finissons par nous trouver dans des situations difficiles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas parlé. On n'a pas voulu offenser, on n'a pas voulu se mettre trop devant, on ne voulait pas de problème, donc on n'a pas parlé. Et à force de ne pas parler, de ne pas contribuer, de ne pas poser des questions, tu es dans une situation vraiment terrible. Il y a une seule sagesse qui pourra te faire sortir de cette situation. Et c'est la sagesse qui vient d'en haut. La sagesse à laquelle beaucoup n'auraient pas pensé. Prends le temps de réfléchir. Cette décision que je vais prendre, cette chose que je vais accepter, à la longue, comment est-ce que ça va affecter ma vie? Quel est le prix que je dois payer pour l'avoir? Est-ce que ça vaudra la peine? Dans 5 ans, est-ce que je serai fier de ma décision? Dans 10 ans, est-ce que ma décision va me conduire quelque part de bien? Prends le temps de te poser la question. Daniel n'a pas sauté sur la nourriture. Il a réfléchi. Il a réfléchi. Il dit, les gars, attendons d'abord. Qu'est-ce qu'il y a sur la table?
je vois des choses
pas claires. Je vois des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués. Je vois des choses. Il y a des filles qui entrent. Je connais une sœur, elle fréquentait l'église il y a plusieurs années. Un jour, je regarde la télé et qui est-ce que je vois? En maillot de bain. Elle est en train de se présenter pour un Miss. What was that thing called? Oh, it was on Mnet years ago. Miss. Je crois que vous n'étiez pas née encore. Mais elle se présentait pour un Miss. Et elle était en maillot de bain. Je me suis dit, ah mais ça c'est... Cette fille-là, elle est dans mon église, non? Effectivement, elle était dans l'église. Je ne sais pas quelle proposition on lui avait fait. Ce n'est pas parce que tu es belle que tu dois te présenter à un Miss quelconque. Tu vas me dire, mais Esther, la reine Esther, s'est présentée pour un Miss, n'est-ce pas? Mais la Bible ne nous dit pas qu'elle s'est mise à nu pour être choisie. Alléluia. Ok. Il ne faut pas aller dire que la femme là, elle a dit que si tu es dans un concours de Miss, I didn't say anything like that. I said, quel est le prix que tu dois payer pour avoir ça? Amen. Soyons comme Daniel. Soyons sages et prenons des décisions qui vont nous aider à servir Dieu, à garder la foi, à ne pas compromettre ce en quoi nous croyons. Alléluia. Réfléchissez d'abord, priez d'abord avant de prendre une décision, avant d'accepter une proposition. Amen. Number two. Donc la première chose qu'on a appris, c'est que Daniel a utilisé sa sagesse. La sagesse de Dieu pour surmonter l'impossibilité. Amen. Jacques 3:15. Cette sagesse-là, all right, n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Ok? So, il y a trois différents types de sagesse. Il y a une sagesse qui vient d'en haut, il y a une sagesse aux quatre, terrestre, il y a un autre charnel, il y a un autre diabolique. Next verse. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, plein de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Amen. Donc, il y a une certaine sagesse avec laquelle tu peux exercer, qui montre que tu es connecté à Dieu. Une sagesse qui est pacifique, qui cherche la paix, qui est conciliante, qui est modérée, pleine de miséricorde, ne peut pas être charnelle. Parce que la sagesse charnelle, c'est de se venger, c'est de attaquer, c'est de répliquer, c'est de répondre. Mais la sagesse qui vient d'en haut est différente. Alléluia. Amen. Donc Daniel a mis en application la sagesse d'en haut pour sortir d'une situation un peu compliquée. Number two. Daniel a utilisé la sagesse de Dieu pour surmonter l'impossibilité d'être invité à interpréter un rêve lorsque le roi lui-même ne pouvait pas se souvenir de son propre rêve. Daniel et tous les sages furent condamnés à mourir s'ils ne pouvaient pas dire au roi le rêve qu'il avait eu plus l'interprétation de ce rêve. Ça, c'est une situation impossible. Le roi est devenu fou. Il a fait un rêve et il dit, je ne me souviens pas de mon rêve, mais je veux que tu me dises d'abord mon rêve et que tu l'interprètes. Sinon, tu vas mourir. Je Wanda. Mais monsieur le roi, qu'est-ce qui ne va pas? What happened? Monsieur le roi. Daniel chapitre 2. verset 1 au verset 6. Vous dites qu'on utilise les livres, non? Voici des versets pour vous. Let's read. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication normale. » Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Verset 6. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grandes honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Situation impossible. Qu'aurais-tu fait? Tu allais fuir le pays, n'est-ce pas? Trouver un moyen de vous échapper. Continuons, verset 17. Verset 17. 2, 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Mishkaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Hallelujah. Are you there? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre ici? La sagesse de Daniel l'a conduit, premièrement, à la prière. Dans une situation impossible, la première chose que Daniel a fait, il a prié Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Il a dit, « Seigneur, Lord, God, mais dans quelle situation je me trouve ?» Sa première réaction, c'est d'aller vers Dieu. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir ses amis spirituels, pour dire, soutiens-moi dans la prière. Soutenez-moi dans la prière. Lorsque tu es dans une situation impossible, tournez vers Dieu. Appelez vos amis spirituels et demandez qu'ils se joignent à toi. Dans la prière, la Bible dit que là où deux ou trois, non, si deux ou trois s'accordent sur une chose et il leur demande, il lui demande, il va les accorder, il va leur accorder. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite. Alléluia. Donc Daniel s'est tourné vers ses camarades. Il dit Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, Hananiah, Mishaël et Azaria. Nous devons prier. aide-moi à prier. Parce que si on ne prie pas et Dieu n'intervient pas, nous tous, on va mourir. Cherchez des amis qui peuvent te soutenir dans la prière. Des amis avec lesquels tu peux être vrai. Tu peux leur dire tout. Et qui ne vont pas te juger. Qui ne vont pas te critiquer. Qui vont dire, ta situation est compliquée, mais on va te soutenir quand même. Des amis qui ne vont pas dire, oh mais le roi il est fou, laisse-le. Mais qui vont croire vraiment que tu es en danger. Et ils vont te soutenir. Daniel n'a pas eu à faire face à la situation seul. Dans le sketch, on a vu que le jeune homme, il était dans la dépression. Mais pourtant, il avait des amis. Pourquoi il ne s'est pas tourné vers les amis? Pourquoi? Mais les amis, à la fin, ils sont venus le soutenir et prier pour lui. Nous tous, on a besoin d'amis. Pour ceux qui ont l'habitude de marcher seuls, c'est une chose dangereuse. Quelqu'un dit, ah, mais moi, j'aime pas de problème. Même si tu n'aimes pas les problèmes t'aiment. Et ils viendront te chercher. Tant que tu es dans ce monde et tu vis sur cette terre, oh, un problème va te localiser. Amen. Et tu as besoin de soutien dans les problèmes. Amen. Ne dis pas que moi, j'ai eu des amis qui m'ont trahi, qui m'ont... It's true. Même Jésus-Christ a eu un Judas dans sa vie. Mais ça ne lui empêche pas de nous aimer, nous, aussi mauvais que nous sommes. Nous devons avoir des amis. Amen. Il y a certaines personnes, ils ont deux ou trois amis. Et quand les amis quittent le Ghana, ils sont seuls. Et ils restent seuls. Ce n'est pas une bonne chose. Amen. Vous qui dites comme moi, je suis mélancolique. Tu es mélancolique, mais tu as besoin d'amis. Va chercher un autre ami mélancolique. Comme ça, vous allez avoir vos mauvaises humeurs ensemble. Mais ne reste pas seul. Are you listening to me? Daniel, dans sa sagesse, a prié Dieu. Dans sa sagesse, il a cherché de partager sa peine avec ses amis. Il a demandé de prier avec... Ce n'est pas avec tout le monde que tu partages tes problèmes. Mais choisissez bien vos amis, qu'ils soient spirituels, qu'ils aient les mêmes valeurs que toi, qu'ils aient le même désir, ou des désirs semblables. Par exemple, tu veux être bassin salida, ton ami ne veut même pas venir à l'église. Et ça, c'est ton meilleur ami. Tu vas finir par laisser tomber. Amen. Tu as essayé de faire pause une fois, deux fois. C'est ton ami qui s'est moqué de toi. Ah, donc tu vas faire encore. Tu n'es pas fatigué de cette histoire. Ah, ce n'est pas un ami qui partage tes désirs. Amen. Are you listening to me? Et troisième chose que Daniel a fait dans cette situation, il n'a pas laissé passer l'opportunité de louer Dieu, d'élever le nom de Dieu. Il a pris cette opportunité. Let's read on. Il a pris l'opportunité de glorifier le nom de Dieu. Quand il s'est présenté au roi et il a dit, j'ai une réponse. Mais c'est le Dieu. Ce n'est pas parce que je suis sage. Laisse le cadet. Daniel 2, 26 jusqu'au 30. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Verset 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Daniel n'a pas pris la gloire sur lui-même. Il n'a pas dit, oh, tu sais, bon, dès mon enfance, j'ai toujours été sage. J'ai toujours été première en classe. C'est dans ma famille. Dans ma famille, nous sommes tous intelligents. Dans ma famille, nous sommes tous docteurs, médecins, et, you know, it's not my fault. C'est Dieu qui a... Il dit, il y a un Dieu dans les cieux qui a révélé cela. À chaque opportunité, Daniel louait Dieu. Et il disait, tout ce qu'il avait venait de Dieu. Alléluia. Il y a dans les cieux. Il savait que le roi ne croyait pas dans ce Dieu. Il savait que lui, il était esclave. Et normalement, il ne pouvait pas parler au roi comme ça. Parce que le roi, c'est le même roi qui a créé un statut de lui-même. Il a demandé à Daniel et les autres de se prosterner. Daniel a refusé et il a mis dans la fournaise. It's the same God, the same king. Est-ce que tu vois? Donc, ce n'est pas un king, un roi qui aime Dieu ou qui connaît Dieu. Mais Daniel a pris le courage de lui parler, de témoigner, de dire, il y a un Dieu. Sachant que le roi croyait que lui aussi, c'était comme un Dieu. Amen. Ne perds jamais l'opportunité de tourner les gens vers Dieu, de glorifier Dieu. Par tes propos, par tes actions, par ton comportement, que les gens soient attirés à Dieu, pas repulsés. Amen. Il ne faut pas que les gens te disent, oh, si toi tu es chrétien, moi je ne vais jamais aller à l'église. Si toi tu vas à l'église, c'est que ton église là, c'est suspect. Il y a des gens qui ont quitté les églises à cause de certains d'entre nous. Parce qu'ils ont osé faire le business avec toi. Parce qu'ils ont osé te confier un secret. Mais Daniel, à chaque opportunité, se tournait vers Dieu. Se glorifiait Dieu. Alléluia. Ça, c'est la sagesse que Daniel a eue. Qui l'a aidé à sortir de cette situation difficile. Amen. Et le troisième et dernier point. Daniel a utilisé la sagesse pour surmonter l'impossibilité d'interpréter des signes avant-coureurs que personne ne comprenait. Chacun savait qu'il y avait une sorte de sagesse, de lumière, de compréhension, de connaissance que Daniel possédait et qui les aiderait à surmonter la situation impossible. C'est la sagesse de Daniel qui l'aida à surmonter. Daniel 5, du verset 1 au verset 12. Ok. Avant, c'était le roi, c'était qui? Nebuchadnezzar. This is his son. Ça, c'est son fils. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. Tu vas changer de couleur. Et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il a fait pipi sur lui-même. I don't know. Et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fît venir les astrologues, les chaldéens, les devins. À l'époque, ces hommes on les trouvait les plus sages. Okay. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel donc soit donc appelé et il donnera l'explication. La sagesse de Daniel a fait de sorte qu'il a été remarqué. Lorsque tu es sage et ta sagesse te donne ou te pousse à prendre de bonnes décisions, quand les gens te regardent, t'observent, ils verront la sagesse. Tu seras remarquable et tu seras remarqué. On dirait qu'après un temps, après la mort du père, Daniel a été relégué dans l'arrière-plan. He was just at the back. On avait oublié sa sagesse, on avait oublié son intelligence. Et le jeune roi est venu avec ses idées. Mais quand il a eu une expérience surnaturelle, il a appelé les chaldiens, les sages, les X, les Y. Personne ne pouvait l'aider. Mais la reine s'est rappelée que dans le temps de son père, il y avait un homme. Amen. Ta sagesse te fera toujours remarquer. Si aujourd'hui, on ne te considère pas, dans ta famille, un jour, ils vont t'appeler pour demander ton avis. Parce que tu es sage. Amen. Et tu opères avec la sagesse qui vient d'en haut. Prie et demande toujours la sagesse. La sagesse de Dieu. La sagesse qui te fera, qui te rendra différent des autres. Pas une sagesse qui va te rendre acceptable aux autres. Non. Daniel était différent. Et sa sagesse, l'a aidé ou l'aider à s'en sortir, beaucoup de situations. Amen. Tu seras remarqué par ta sagesse. Amen. Les gens vont t'appeler pour ta sagesse, pour écouter ce que tu as à dire. Aujourd'hui, personne ne te cherche. Quand il y a une réunion en famille, si tu es présent ou tu n'es pas présent ou la réunion a lieu. Comme David, quand le prophète Samuel est venu dans la maison, il a demandé à son père, où sont tes fils? Il a appelé tout le monde. Il a laissé David. Le prophète a dit, ah, are you sure? Que tu n'as pas d'autres fils? Ah, oui, 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 il est dans la brousse quelque part. Aujourd'hui, ça peut être ton histoire. Mais grâce à la sagesse que tu auras, la sagesse d'en haut, la sagesse que tu vas acquérir en priant, en lisant la Bible, les gens vont t'appeler. Il n'y aura pas de réunion en famille sans que tu sois présente. Et même si tu n'es pas présente, ils vont t'attendre et ils vont demander, qu'est-ce que Dave en pense? Qu'est-ce que Colombe en pense? Qu'est-ce que Thiago a dit? Alléluia! Parce que tu opères avec une sagesse qui vient d'en haut. Que cela soit notre histoire. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne serons plus négligés ni oubliés parce que nous sommes sages. Amen. Levez-vous. Parce que nous sommes sages. Alléluia. Que la sagesse soit la principale chose que nous cherchons. Que la sagesse soit la chose principale après laquelle on court. Pas l'argent, pas l'éducation, mais la sagesse. Quand tu pries, que ça fasse partie de tes sujets de prière. Seigneur, rends-moi sage. Dans le livre de Jacques, Dieu dit, si quelqu'un d'entre vous pense qu'il n'a pas la sagesse, qu'il manque de sagesse, qu'il demande, et Dieu va donner simplement. Sans complication, parce qu'il veut déjà que tu sois sage. Alléluia. Donc prie et prie toujours et prie continuellement que Dieu t'accorde la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse qui est douce, paisible, qui est gentille, Jacques 3:15, la sagesse qui est paisible. Seigneur, accorde-moi ça. 16 au 17, mémé. Accorde-moi cette sagesse, Seigneur. Pas la sagesse terrestre, ni charnelle, ni diabolique, mais la sagesse d'en haut. Premièrement pure, ensuite pacifique, ensuite modérée, conciliante, pleine de miséricorde, pleine de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Seigneur, rends-moi sage, rends-moi sage. Que ma sagesse soit la sagesse qui vient d'en haut. Que je sois remarqué pour ma sagesse. Merci Père pour ce message. Merci de me donner encore de l'espoir. De savoir que je peux sortir de cette situation compliquée. Si seulement je peux tourner vers toi. Si seulement je peux crier vers toi. Si seulement je peux chercher des personnes qui vont m'aider, qui vont me soutenir dans la prière. Seigneur, je veux être sage. Je veux la sagesse d'en haut, plus que toute autre chose. Car je sais que ma vie sera complètement différente. Si seulement je pouvais exercer cette sagesse. Merci encore, Père, pour cette grâce. Et merci pour la foi de croire à ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Avant de m'asseoir, je veux faire encore une chose. La meilleure preuve de sagesse que tu peux faire, ou tu peux montrer, c'est d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Frères et sœurs, la Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois et après. C'est le jugement. Nous allons tous mourir un jour. Et après notre mort, il y aura un jugement. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Après ta mort, est-ce que tu verras le royaume de Dieu? Tout le monde veut aller au paradis. Mais ce n'est pas tout le monde qui ira. Dieu dit, ce n'est pas tout le monde qui crie Seigneur, Seigneur, qui entrera dans son royaume. Aujourd'hui, je veux te donner l'opportunité de donner ta vie à Jésus-Christ, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'accepter que tu es pécheur, que tu n'es pas aussi sage que tu crois. Sans Jésus, tu es parmi les plus misérables. Ta sagesse te poussera dans la direction de Dieu. Accepte Jésus comme Seigneur aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu ne meures et que tu te trouves en enfer. Si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste de te les pardonner. Aujourd'hui, alors que les yeux sont fermés, je veux que tu te poses cette question. Si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'irai au paradis? Si la réponse est non ou je ne suis pas sûr, je veux t'encourager à donner ta vie à Jésus, d'accepter son amour, d'accepter son pardon, d'accepter cette nouvelle opportunité qu'il te donne pour que tu sois sauvé. Si tu veux accepter Jésus aujourd'hui, fais-moi signe de la main. Lève la main droite. Dis, pasteur, prie pour moi. Frère, il n'est pas suffisant de dire que je vais à l'église ou je suis chrétien. Tu n'es pas chrétien parce que tu vas à l'église. Tu es chrétien parce que tu es comme Christ. Et tu ne peux pas être comme Christ si tu ne l'as pas accepté comme Seigneur et Sauveur. Frère, n'endurcis pas ton cœur alors que tu entends le message de l'évangile de Jésus. Jésus-Christ est mort pour toi. Il a payé le prix. Tout ce que toi tu dois faire, c'est de l'accepter. Dis, pasteur, prie pour moi. Je veux être sûr que je suis sauvé. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je ne veux pas attendre pour que ça soit trop tard, avant que ça ne soit trop tard. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Ne pense pas à ton voisin. Ton voisin ne va pas négocier pour toi comme le jeune homme a négocié avec le landlord pour son ami. Ton salut dépend entièrement de toi et de ta décision sur cette terre. Lève la main si tu veux accepter Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu veux faire une prière? La Bible dit que tu seras sauvé. Anybody? S'il y a quelqu'un, je veux t'encourager à venir vers moi. Je veux prier avec toi. S'il y a quelqu'un. Et si la personne a honte, la Bible dit que si tu as honte de moi devant le peuple, j'aurai honte de toi devant le Père. La décision est cruciale pour ton salut et pour ton éternité. Alléluia. Accepte le Seigneur. Accepte le Seigneur. Sois courageux. N'aie pas honte de ta décision. Jésus-Christ est le meilleur choix que tu peux faire sur cette terre. Amen. Que personne ne te trompe. Ta vie sera transformée parce que tu as accepté et que tu as cru en Jésus-Christ. Nous tous, on a accepté un jour que nous étions pécheurs et que notre seule solution était Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui doivent venir, mais je ne sais pas, ils ont honte. Mais ma prière, c'est que votre décision ne vient pas quand c'est trop tard. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons aider notre sœur dans cette prière. Est-ce que nous pouvons tous répéter ensemble? Dites après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ce message. Je reconnais que je suis pécheur. Ce matin, je te demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire pour t'offenser, Seigneur. S'il te plaît, lave-moi par ton sang précieux. Fais de moi une nouvelle créature. Je renonce à ma vie passée et je déclare qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais te suivre, Seigneur Jésus. Fais de moi une nouvelle créature. À partir de ce moment, je t'appartiens. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. Et je crois que tu as payé le prix pour me sauver. Merci de m'aimer tel que je suis. À partir de cet instant, je t'appartiens. Maintenant, dis après moi, Satan, je ne t'appartiens pas. C'est fini entre toi et moi. Je ne te suivrai plus. À partir de cet instant, je suis né de nouveau.
Je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé, de m'avoir accepté, de m'avoir aimé. Je t'aime aussi et je te servirai pour le reste de ma vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu par notre pasteur, Sœur Simone Pierre Ademola. Visitez-nous sur Facebook en cherchant la page QFC La Belle Église. Telegram en cherchant Sœur Simone Pierre ou souscrivez à notre podcast Sœur Simone Pierre. Pour plus de messages, Dieu vous bénisse.